Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons achevé la première grande partie de ce que j'ai à vous dire sur le drame de la lutte entre les deux cités, la cité de Dieu et la cité de Satan. Cette première partie, c'était de vous montrer la chute des anges, la chute des hommes, la répartition désormais de l'humanité en deux groupes, ceux qui suivent la Sainte Vierge et donc notre Seigneur, et puis ceux qui suivent le démon. Et maintenant, nous en arrivons à la deuxième partie, dans laquelle je veux vous montrer comment le démon s'y prend pour arriver à nous attirer de son côté et nous sortir de ceux qui suivent la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez remarqué que la première manœuvre à laquelle le Concile, ou plutôt le catéchisme du Concile de Trente, accorde de l'importance, celle qui est la principale, ce sont les hérésies. Autrement dit, les pères du Concile de Trente et l'auteur du catéchisme sont bien conscients que le démon cherche d'abord à subvertir les esprits, à attaquer la foi. Le catéchisme ne peut pas tout dire, et il est évident, c'est l'enseignement de Mgr Lefebvre, et c'est l'enseignement de tous les grands contre-révolutionnaires catholiques depuis la Révolution française, qu'il faut dénoncer quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est une perversion de la notion de Dieu, non seulement dans le peuple chrétien, mais dans toute l'humanité. Commençons par voir la réalité, la vérité, ce qui est. J'intitulerai cette première partie du sermon « L'éternité de Dieu et ses conséquences ». La connaissance de Dieu est inhérente à la nature humaine. Vous voyez, mes bien chers frères, Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, naturellement, l'homme connaît au moins quelque chose sur Dieu. C'est peut-être plus ou moins imprécis, mais c'est dans la nature humaine, parce que, d'abord, Dieu se fait connaître à ses enfants, un père se fait connaître à ses enfants. En plus, Dieu a donné aux hommes l'intelligence pour cela. Dieu ne se fait pas connaître aux animaux parce qu'il ne leur a pas donné d'intelligence pour le connaître. Donc il ne le leur demande pas. Mais l'intelligence de l'homme permet de connaître Dieu, et ça c'est ce que Dieu voulait. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire « j'utilise mon intelligence à autre chose ». On ne peut pas faire comme les modernes qui sont laïcistes, c'est-à-dire en réalité athées, et qui disent que la connaissance de Dieu est quelque chose de facultatif pour l'intelligence humaine. Il est évident que l'intelligence remonte nécessairement jusqu'à la source. Et ce qui apparaît avec évidence, c'est qu'il y a une sagesse éternelle, la sagesse de Dieu, et qui est la source de toute vérité ici-bas. De même, il apparaît à l'évidence aux hommes qu'il y a une fin, une finalité à toute chose, qu'il y a un bien suprême, supérieur, que l'homme n'explique pas tout, et que la finalité de l'homme est orientée vers quelque chose de plus grand, vers quelqu'un de plus grand, et tous les hommes vous diront que c'est vers Dieu, disons tous les hommes qui n'ont pas été déformés par ces manœuvres du démon et de ses complices, les faux philosophes. Tous les hommes ont une volonté, et qu'est-ce que la volonté? Sinon la faculté qui nous fait chercher le bien consciemment, de bon cœur, en pleine liberté, c'est-à-dire de bon cœur. Les animaux n'ont pas de volonté. Ils cherchent le bien, mais sans le connaître. La chatte s'occupe de ses petits. Nous avons une chatte là qui vient de mettre bas des petits. C'est merveilleux comme elle s'en occupe, mais elle n'est consciente de rien. Nous sommes conscients des choses. Et nous sommes capables de voir ne serait-ce qu'en voyant la chatte, que il faut remonter plus haut pour comprendre le comportement de toutes les chattes du monde. Et mon grand-père me disait, le pire animal, c'est l'homme, parce qu'il est le seul à ne pas suivre ce pourquoi il a été fait. Eh oui, l'homme abuse des dons de Dieu et il peut s'écarter des dons de Dieu. Mais quand on réfléchit un tant soit peu, il est une évidence que l'homme, les qualités de l'homme ont une origine, ont une source. Et que cette source, il faut remonter jusqu'à la source première. Il y a nécessairement une perfection éternelle qu'on appelle Dieu, qui est la source de toute chose. Et cela, même indépendamment du catéchisme. Évidemment, à cause du péché originel et à cause de l'influence de Satan et des hommes pervers, beaucoup l'ont oublié. Enfin, c'est naturel à l'homme. On voit bien chez les Grecs, par exemple, Aristote, qui était un philosophe, Sophocle, qui était un dramaturge, on se sent très profond de la majesté divine. Ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont une recherche honnête de Dieu. La même chose chez les grands Romains. Caton et Cicéron étaient des hommes préoccupés de Dieu. Alors cette connaissance, bien entendu, a des conséquences. Une certitude de la perfection de Dieu, et par conséquent, des conséquences d'abord sur toute science, sur la vérité. La vérité dépend de la sagesse de Dieu, et donc on n'en fait pas ce qu'on en veut. Je vous ai déjà raconté qu'un de mes premiers cours, une première conférence, lorsque j'ai commencé mes études de droit, un grand professeur de Paris est venu nous expliquer que pour nous, occidentaux, la famille, c'était un père, une mère et des enfants, mais ça, c'était des questions de civilisation occidentale, et que les aborigènes d'Australie, alors évidemment, c'est facile, on ne peut pas aller plus loin qu'en Australie, c'est l'autre bout du monde. Les aborigènes d'Australie avaient une autre conception de la famille et que tout était commun, homme, femme, enfant. Eh bien non, la famille a été pensée par Dieu, elle a été voulue telle qu'elle est par Dieu. Toute autre chose qu'on pourrait faire que ce que Dieu a voulu ne peut être qu'une déformation, voire même une subversion, et ne peut que démolir ce que Dieu a fait. Il est évident que cette communauté, je ne sais pas si elle est vraie en plus, je ne sais pas s'il nous a dit la vérité, ce professeur. Mais même si c'était vrai, ça n'est qu'une grave subversion de la notion de famille. Et je ne vais pas vous parler de, enfin vous avez cela présent à l'esprit, ce qu'on fait aujourd'hui de la famille, où on prétend justement, ce professeur de droit voulait nous faire admettre ce que 30 ou 40 ans plus tard, ce qui se trouve dans la loi. Il aurait été franc-maçon que ça ne m'étonnerait pas. La certitude de ce que Dieu est la source de tout bien fonde la morale. La première obligation morale, elle n'est pas dans une loi écrite. La première obligation morale, elle est nécessairement dans cette certitude que Dieu est la fin de toute chose, qu'il est la référence de toute chose, et que la créature n'est qu'une créature, et que par conséquent, elle ne fait pas ce qu'elle veut, que sa liberté ne lui permet pas de prendre la place de Dieu. Que trouve-t-on contrairement à ça? On trouve le grand cri de la liberté, le grand cri de la révolte qui se fait au nom prétendument de la liberté. Vous avez deux types de révolte. Vous avez la révolte des jouisseurs, l'ivrogne, l'adultère, que sais-je, qui s'en moque complètement de savoir si Dieu permet ou ne permet pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin de se justifier. Soit parce qu'ils agissent par faiblesse et qu'ils ne veulent quand même pas aller jusqu'à justifier leur malice, soit parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils n'ont même pas besoin de se justifier, ils font comme ils veulent. Et puis vous avez la révolte des gens intelligents, des influenceurs, de ceux qui veulent diriger le monde, qui savent qu'il faut s'adresser malgré tout à l'esprit de l'homme. Et cette révolte va chercher à se justifier. Pour se justifier, il faut se passer de Dieu. Le problème, c'est que se passer de Dieu, ça ne fait pas très sérieux. Et donc, il va falloir trouver le moyen de garder un vague Dieu, mais qui ne soit pas gênant. Alors, un Dieu qui n'est plus une sagesse éternelle, et donc il n'y a plus de référence à la vérité, un Dieu qui n'est pas la fin de toute chose, et donc il n'y a plus de référence à la morale, un Dieu qui, finalement, se construit petit à petit, un Dieu qui est en perpétuelle évolution, et puis on arrive, et alors surtout, la révolte par rapport à cette chose fondamentale que Dieu est l'être qui vit par soi-même et qui n'a besoin de rien ni de personne d'autre, et que toute créature vit par un autre. C'est la définition de la créature, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait vivre, ce quelqu'un d'autre c'est Dieu. La créature n'est pas indépendante, Dieu est indépendant, mais pas la créature. Et la révolte fondamentale, c'est de dire que la créature est indépendante, et qu'elle n'est plus un être qui vit dans la dépendance de Dieu. Et alors on pousse jusqu'au bout, et cela nous donne ce que j'ai lu dans un livre qui présente la Kabbale. Qu'est-ce que la Kabbale a apporté au monde ? Elle a apporté cette certitude, cette conviction, dit le livre, que Dieu a besoin des hommes. Non pas comme le Dieu des chrétiens, parce que s'il n'y avait personne pour l'adorer, il manquerait quelque chose, ce qui n'est pas vrai, il lui manquerait rien. Mais un besoin fondamental de la divinité qui a besoin de l'homme pour retrouver sa perfection. Et là, ça devient scabreux, parce que la perfection que la divinité a perdue, c'est l'union entre la masculinité et la féminité. Et alors là, on s'engage dans des choses, mais qui sont d'actualité. Le gender, le genre dont on parle là tant maintenant, qui est une nouvelle phase de la subversion, repose là-dessus. Et vous avez également Dieu au service de l'homme, ça c'est Vatican II. Paul VI, voici une citation de Paul VI, son discours de clôture du Concile Vatican II. Il s'adresse au monde entier, et voici ce qu'il leur dit. La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, dit-il, de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé ? Un choc, une lutte, un anathème ? Non, cela n'a pas eu lieu. Reconnaissez au Concile au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes. Et sachez reconnaître notre nouvel humanisme. Nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Autrement dit, Paul VI s'adresse à ceux qui refusent la transcendance, qui est un grand mot, transcendance. Je vous l'ai dit d'une façon plus simple, Dieu est l'être supérieur et nous sommes dans la dépendance de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus et nous sommes dépendants. Donc il s'adresse à ceux qui refusent la supériorité de Dieu et qui affirment que l'homme est indépendant de Dieu. Et que leur dit-il ? Eh bien, il n'y a pas de choc entre nous. Et vous avez le culte de l'homme parce que vous n'avez pas le culte de Dieu. Eh bien, nous aussi, nous avons le culte de l'homme. Alors que reste-t-il de Dieu ? Ça, c'est le dernier et le principal document du Concile. C'est ce qui s'appelle Gaudium et Spes, c'est le titre du document. Dieu est au service des hommes. Ça se ressemble beaucoup avec la Kabbale. Dans la Kabbale, l'homme fait Dieu. Il fabrique Dieu. Vatican II, Dieu est au service de l'homme pour fabriquer le monde moderne. Dites-moi un peu la différence. La grande idée des modernes, c'est de réduire Dieu non pas à un être, mais à une force. Une force, vous voyez, ça a une apparence de quelque chose. Vous lancez une boule dans un jeu de quilles, la boule renverse les quilles grâce à sa force. Seulement, voilà, la force est une qualité de la boule. Vous ne lancez pas une force, vous lancez une boule qui a de la force. Une force toute seule, ça n'existe pas. Et Dieu est un être. Il est un être réel, concret, non pas corporel, mais un être. Et il n'est pas une simple force, un mouvement, c'est pas possible, ça n'existe pas. Eh bien, dans son livre « Lumière du monde », le pape Benoît XVI parle de l'Eucharistie, et on lui pose la question « Qu'est-ce que l'Eucharistie ?» Le journaliste lui demande, et Benoît XVI répond « L'Eucharistie est une force ». Il ne dit pas « Elle vous donne la force ». De toute façon, s'il répondait ça à la question de la définition, ça serait déjà faux. Le pape Benoît XVI a complètement oublié l'enseignement du Concile de Trente. L'Eucharistie est une substance, d'où l'importance de la transsubstantiation, à savoir qu'il n'y a plus la substance du pain, il y a à la place la substance de notre Seigneur Jésus-Christ avec son humanité et sa divinité. Quand on lit un peu superficiellement le pape Benoît XVI, ce livre de Benoît XVI, on se dit « Oh, ben c'est vrai, parce qu'il donne l'illustration. Vous voyez, l'Eucharistie a fait les saints, et c'est ce qui donne la force aux martyrs. » Ça, c'est une conséquence, mais ce n'est pas la définition. Et alors, c'est très grave de dire que l'Eucharistie est une force. Parce que si c'est une force, alors où va-t-elle ? Ah, on ne peut pas le définir, parce qu'il faudrait le définir par rapport à quelque chose qui serait transcendant. Et ce transcendant serait la raison de la force, et ne serait pas la force. Il faudrait le définir par rapport à un but. Bien sûr qu'il existe des forces dans le monde. Bien sûr. Seulement, ces forces sont dirigées vers quelque chose qui est un être, qui est un bien. Elles ne sont pas arbitraires. Elles sont provoquées par quelqu'un qui cherche l'être et le bien. Elles ne sont pas lancées comme cela. Les conséquences de cela, c'est le refus de la vérité. Mais le refus de Dieu va entraîner le refus de la vérité. Mais c'est d'abord un refus de Dieu. Alors qu'on garde vaguement. On garde vaguement, puis parce que ça rend service, surtout quand on est le peuple élu, ou prétendument élu, ou plutôt quand on se prétend à partir au peuple élu, il est évident qu'on ne peut pas nier Dieu. Seulement, il faut un Dieu qui garantisse l'élection sans gêner. Le triomphe du démon est d'avoir fait adopter cette révolte par l'Église moderne. Et voilà pourquoi nous devons nous écarter de cette Église moderne, nous défier de cette Église moderne. Voilà pourquoi nous condamnons le modernisme. Et c'est génial de la part du démon, parce que en faisant adopter cette révolte par l'Église moderne, il lui donne un côté spirituel qui lui manquait. Il lui donne un dynamisme. Il lui donne une saveur catholique, c'est-à-dire sérieuse. Et cela, ça vient de ce que, à l'origine, Dieu a révélé aux hommes l'habitation de la Trinité dans leur âme, et que les révoltés ont dit très bien, je garde Dieu qui est en moi, mais il vient de moi, il ne vient pas d'au-dessus. Par nature, je possède Dieu, et je ne l'ai pas reçu. Or, les traditionalistes sont un peu atteints par cette révolte. Quand on ne place pas, on se place pas dans l'absolue transcendance de Dieu. Et c'est fréquent, cela. Faites votre examen de conscience. Nous avons des préoccupations trop humaines. Nous chérissons l'indépendance de la liberté. Nous avons une négligence du Saint-Esprit, une fuite de la croix. Ne pas prendre le Christ comme modèle en toute chose, le suivre vaguement, mais pas comme modèle. Les grands dangers de la tolérance également. Nous sommes, vous êtes atteints, nous sommes tous atteints, mes bien chers frères, par cette fréquentation de gens qui nous obligent à admettre qu'on peut vivre sans croire et admettre la toute-puissance de Dieu, sa sagesse, son éternité. Alors croyez ce que vous voulez, nous disent-ils, mais laissez-nous. Et très vite, nous passons d'une simple tolérance à un modus vivendi, à plus ou moins une acceptation. Moi, je vis comme ça, toi, tu vis autrement, et c'est normal. Nous avons le souci de ne pas heurter le monde, et de ne plus faire profession publique de la vérité. Vous allez me dire, le monde ne nous en laisse pas la possibilité. Non. Il est permis d'être prudent pour chercher à annoncer la vérité d'une façon qui passe bien, mais se taire sur l'annonce publique de la vérité, ça n'est pas possible. Dussions-nous aller au martyr ? Bien sûr, je fais attention dans les prédications que je vous donne et que vous écoutez pour ne pas provoquer bêtement et inutilement le monde moderne, mais vous voyez bien que je vous dis la vérité, et je sais très bien qu'un certain nombre de ces vérités ne seront plus acceptées si c'est pas moi, ça sera le père Marcel Delacroix, qui affirmera ce que je viens de vous affirmer, et qui sera condamné parce qu'on n'a pas le droit d'imposer sa vérité. Et ça, il suffit pas de se dire « c'est affreux », il faut se dire « c'est le martyr ». Que le bon Dieu nous demande aujourd'hui, ce martyr, je l'accepte. J'accepte d'être le témoin de la transcendance de Dieu, d'être le proclamer la transcendance de Dieu, la proclamer dans mes paroles et dans mes actes, quelles que soient les conséquences. Je vous recommande, mes bien chers frères, comme remède, le rosaire, obéir à Notre-Dame de Fatima, l'apostolat, et je vous recommande également l'enseignement de Mgr Lefebvre. Demandez-moi les œuvres complètes de Mgr Lefebvre, je sais où les trouver. Je vous dis pas où, parce que la fraternité Saint-Pédis fait obstacle à ce qu'on les diffuse. Donc je vous dis pas où je les trouverai, mais je sais où les trouver, et je sais comment vous les faire parvenir. Demandez-moi cela, ce sont des trésors. Honorez bien notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui parmi vous aujourd'hui, hélas, n'ont pas la joie de la messe et de la procession du Saint-Sacrement, qu'ils se mettent en esprit, qu'ils s'unissent à celle que nous faisons au prieuré, et ainsi, en esprit, ce sera moins consolant, mais ce sera tout aussi authentique et vrai et convaincu. Que Notre-Dame de Fatima vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.